Radio France Internationale, il est 16h à Paris, 14h en temps universel. Le journal est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la... Après-midi, les coulisses de la démission de Thierry Breton. Le commissaire européen a claqué la porte de la commission ce matin avec effet immédiat. Nous reviendrons également sur les contrôles aux frontières en Allemagne. Ils sont rétablis depuis ce matin. Alors, mesures électoralistes ou réels problèmes migratoires, éléments de réponse dans ce journal. Au sommaire, également la principale aciérie du Chili qui ferme ses portes, laissant 2500 salariés sans emploi. Impossible pour elle de rivaliser avec la concurrence chinoise. Et puis l'ouverture aujourd'hui du procès de Peter Sherif à Paris, cadre d'Al-Qaïda au Yémen. Il est accusé d'avoir participé à l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Stéphane Séjourné va-t-il remplacer Thierry Breton à la Commission européenne ? C'est la proposition faite par Emmanuel Macron aujourd'hui. Suite à l'annonce ce matin de sa démission avec effet immédiat, Thierry Breton se dit désavoué par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avec qui les rapports étaient de plus en plus tendus ces derniers mois. La correspondance de Pierre Benazet.
Thierry Breton envoie ce lundi une lettre circonstanciée à la présidente de la Commission. Il reproche à Ursula von der Leyen d'avoir négocié son départ dans son dos. Le commissaire français accuse la présidente de la Commission d'avoir demandé à Emmanuel Macron de le remplacer. En échange, la France pourrait prétendre à un portefeuille de poids au sein de la future Commission. « J'avais été officiellement désigné par le président de la République, écrit-il, mais vous lui avez demandé, je cite, de retirer mon nom pour des raisons personnelles. Et à aucun moment, vous n'en avez parlé avec moi. » Selon lui, c'est là une nouvelle preuve d'un mode de gouvernance discutable de la part d'Ursula von der Leyen. Il faut dire qu'il ne s'était pas privé de critiquer vertement la présidente de la Commission au mois de mars, au moment du lancement de la campagne pour désigner les candidats à la présidence de la Commission. C'était la première fois que leur bisbille répétée était ainsi étalée en public. Et ce lundi, Thierry Breton claque la porte avec fracas puisqu'il démissionne, je cite, « avec effet immédiat ». Et son entourage précise que ce départ n'est en aucun cas lié à une éventuelle entrée dans le futur gouvernement français. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
En France, justement, alors que Michel Barnier a promis ces derniers jours qu'un gouvernement serait formé cette semaine, le Premier ministre poursuit les consultations cet après-midi avec les cadres de sa famille politique, les Républicains, Gérard Larcher, le président du Sénat, Laurent Wauquiez, le chef des députés et Bruno Retailleau, patron des sénateurs. Michel Barnier va devoir faire vite. Le projet de loi de finances doit en principe être présenté à l'Assemblée nationale le 1er octobre. Le Secret Service, le service de police en charge de protéger le président et les anciens présidents américains, a besoin de davantage d'aide. Déclaration aujourd'hui de Joe Biden, 24 heures après une nouvelle tentative d'assassinat présumé qui a visé Donald Trump, la deuxième en deux mois. Les réactions s'enchaînent à l'international. Keir Starmer, le premier ministre britannique, se dit très très inquiet. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a quant à lui condamné cette tentative d'assassinat en soulignant que la violence n'avait sa place nulle part. À 15 km de l'Ukraine, justement dans la région russe de Koursk, cible d'une offensive d'ampleur, lancé début août par Kiev. Le gouverneur par intérim a ordonné aujourd'hui l'évacuation des habitants de plusieurs localités pour des raisons de sécurité. Une annonce qui intervient alors que la Russie a affirmé ce matin avoir repris deux villages, dénonçant par la même occasion une provocation suite à la proposition du chef de la diplomatie ukrainienne. Ce dernier a invité les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge à visiter la partie de la région russe de Koursk occupée par Kiev. L'Allemagne a débuté ce matin le rétablissement des contrôles aux frontières avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, une mesure très controversée. Certains y voient d'ailleurs un appel du pied d'Olaf Scholz à l'électorat d'extrême droite. Alors le chancelier a-t-il pris cette décision par pur électoralisme alors que dimanche prochain se tiennent des élections locales dans le Brandebourg ? Ou alors existe-t-il un réel problème sur la question migratoire ? Pour Paul Maurice, secrétaire général du CERFA, le comité d'études des relations franco-allemandes, c'est un peu des deux.
Bien, je dirais un peu les deux, parce que à la fois il y a un calendrier qui est une réponse au calendrier électoral, c'est-à-dire que les annonces faites par Olaf Scholz viennent juste après les résultats des élections en Saxe et en Thuringe, qui ont placé l'AFD, le parti d'extrême droite, à plus de 30%. Et en même temps, c'est un sujet qui est un débat de longue date en Allemagne, et cette décision, elle répond en fait à un triple impératif. Premièrement, la question de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il y a un deuxième impératif, qui est l'impératif sécuritaire de l'Allemagne. Ces mesures, elles répondent également à des attaques faites par des migrants en situation irrégulière, des attaques souvent à vocation islamiste. Et enfin, tout ceci répond aussi à des questions sociales en Allemagne, à des questions pratiques pour apaiser les Länder et les communes qui prennent en charge les migrants et qui sont dépassés dans leur capacité, notamment depuis l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Toutes ces raisons mêlées à un calendrier électoral, à une pression politique faite par un vote d'extrême droite qui se cristallise surtout sur les questions migratoires, fait que ces décisions ont été prises.
Des propos recueillis par Romain Lebaresquier. De nombreux pays ont d'ores et déjà exprimé leur opposition, comme la Grèce, confrontée à une hausse des arrivées en provenance de Turquie, qui a prévu d'envoyer son ministre de la Migration dès aujourd'hui à Berlin. De son côté, Keir Starmer est en Italie aujourd'hui. Déplacement là aussi sur le thème de l'immigration, au lendemain d'un nouveau naufrage meurtrier de migrants dans la Manche. Le Premier ministre britannique, qui a rencontré son homologue italienne Giorgia Meloni, a salué les progrès remarquables de l'Italie en matière d'immigration clandestine. Des maisons englouties, des routes emportées, des inondations spectaculaires. La tempête Boris sème le chaos en Europe centrale et orientale. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter, au moins 15 morts, mais aussi des milliers de sinistrés. Le Premier ministre polonais a d'ailleurs annoncé ce midi une aide immédiate de 260 millions de dollars aux régions sinistrées. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a quant à lui annulé son déplacement prévu mercredi au Parlement de Strasbourg, où il devait s'exprimer dans le cadre de la présidence semestrielle de l'Union européenne. Au Chili, ce sont 2500 salariés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi face à la concurrence de l'acier chinois à bas prix qui inonde le marché latino-américain. Dans la plus grande acierie du pays, les deux hauts fourneaux de l'usine de Huachipo, dans le sud du pays, doivent s'arrêter pour, je cite, une durée indéterminée. En réalité, ils pourraient bien ne jamais redémarrer. Les explications de Justine Fontaine.
Après 7 décennies d'activité, la fumée cessera de s'échapper des hautes cheminées de l'usine Huachipato, en banlieue de la grande ville de Concepción. L'arrêt des hauts fourneaux est un crève-cœur pour Hector Medina, le président du principal syndicat de la Syrie.
Je n'ai pas de mots pour décrire cela. Il n'y a rien dans le dictionnaire qui puisse expliquer ce que signifie qu'une usine comme celle-là ferme et qu'on se retrouve tous au chômage. C'est indescriptible.
En avril dernier, l'entreprise avait suspendu temporairement son activité pour exiger et obtenir du gouvernement chilien la mise en place de droits de douane de près de 25% sur l'acier chinois face à une concurrence jugée déloyale. Mais pour Hector Medina, les nouveaux droits de douane, c'était trop peu et surtout trop tard.
Les Chinois ont envahi le marché local ici avec l'acier subventionné depuis une quinzaine d'années. Pour moi, la seule et unique raison de la fermeture, c'est la concurrence déloyale. Et si quelqu'un dit que l'usine est obsolète, c'est faux.
En comptant les nombreux sous-traitants de l'usine et les emplois indirects, près de 20 000 personnes en tout pourraient se retrouver au chômage dans les jours et les semaines à venir.
Et le gouvernement chilien a exprimé sa colère pour lui arrêter les deux hauts fourneaux après la mise en place de droits de douane cette année sur l'acier chinois et, je cite, irresponsable. En France, le procès de Peter Sherif, également connu sous le nom d'Abu Hamza, un des derniers djihadistes d'Al-Qaïda, accusé d'avoir participé à la préparation de l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Il est jugé pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Maître Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, nous parle de lui.
On a un parcours qui mène à un gamin, en fait, sans trop de repères, des Buttes-Chaumont, né d'ailleurs dans une famille chrétienne, mais qui se convertira à l'islam, qui voulait être parachutiste et militaire, mais qui finira djihadiste, qui disait agir parce qu'il était épris de justice et de considération humanitaire, mais qui finira djihadiste. Et donc on a ce parcours qui va le mener des Buttes-Chaumont à Ben Laden. Et c'est un parcours évidemment riche d'enseignements sur lesquels il est intéressant de s'interroger, de méditer, de s'attarder pour bien comprendre les choses. Mais c'est un parcours qui a été suivi plus ou moins par des dizaines de milliers de jeunes gens partout en Europe.
Maître Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, interrogé pour RFI par Olivier Sherman. Peter Sherif encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il est 16h09 à Paris, 14h09, temps universel. Tout de suite, vous retrouvez autour de la question.